Là, vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise. Accrochez-vous, mesdames, messieurs. Croyez-le ou non, il y a du sport ce soir. Il y a du sport ce soir. Ray Lalonde, bonjour.
Bonjour, Paul.
Ben oui, il y a du sport ce soir.
Ben oui, c'est la UFC 249 à Jacksonville, en Floride. Imagine, la UFC avait promis d'être les premiers au retour et ils auront réussi leur coup ce soir.
Oh, ça va être quelque chose. Du sport. On avait oublié comment, à quoi ça ressemblait. Mais ils voulaient rester ouverts, eux autres.
Oui, ils avaient tenté en mars. Paul, leur dernier événement a eu lieu le 14 mars. Ils avaient tenté à la fin mars, début avril, d'avoir une autre soirée de combat. Il faut dire une chose hier, c'est qu'un de leurs grands combattants, Jacare Souza, a été testé positif hier.
Ça aide pas.
Puis deux de ses collaborateurs proches, là, on appelle ça en anglais là, les corner men, ont testé positif aussi. Alors, c'est pas de bon augure. Cependant, ils ont eu l'autorisation de la commission athlétique de la Floride. Apparemment, tout s'est très bien déroulé. C'est très, très rigoureux comme approche. Les combats ce soir, évidemment, à huis clos, mais sur la télé payante. Donc, c'est une occasion pour la UFC de relancer. Je suis obligé de dire que je suis un peu content qu'eux ont pris les grands moyens pour revenir plus vite. Ça ne veut pas dire que tout va se dérouler sans bavure, Paul, mais c'est un début progressif vers un retour, étape par étape, avec des petits pas de bébé pour la business du sport.
Bon, mais il y en a une business où le commissaire, lui, est allé présenter un portrait très sombre. C'est la Ligue canadienne de football.
Oui, alors il a rencontré jeudi les gens au Parlement, avec, entre autres, d'autres individus du côté art et spectacle, et communautaire et social, artistique, de façon à plaider leur cause, Paul. Et c'est pas de bon augure. Ils ont demandé, il y a 10 jours, un minimum de 30 millions en dons, en cadeaux du gouvernement fédéral pour survivre au cas où ils rateraient quelques matchs. Mais jusqu'à 150 millions, si jamais la saison au complet est annulée. Puis c'est à peu près ça que ça coûte. Tu sais, 150 millions là, pour les équipes, tu divises ça par 9 équipes, t'en donnes un peu au bureau de la Ligue pour opérer une saison. Puis s'il y a une perte de revenus, surtout les revenus billets, ben cet argent-là servirait à rester en vie. Mais imagine si le gouvernement dit non, ben là, et imagine s'il n'y a pas de saison pour la Ligue canadienne.
Ben pas de saison. On va juste regarder les dates. Les Stampeders de Calgary sont tenus par la décision de l'Alberta et de la ville de Calgary de ne rien faire avant le 31 août. Un peu comme à Montréal, d'ailleurs.
Un peu comme à Montréal.
Alors, imagine 31 août. Faudrait quoi? Que la saison ne dure que 7 semaines, 8 semaines?
Oui, 7-8 semaines pour une saison. Paul, il faudrait que tu joues une fois contre chaque équipe, mettons.
Alors, tu ne rentreras pas beaucoup d'argent dans les coffres.
Non. Déjà, tu vas perdre la moitié de tes revenus parce que tu aurais la moitié de tes matchs à domicile. Moins que la moitié. Alors là, Paul, ça devient compliqué pour la Ligue canadienne qui est fragile financièrement. T'sais, c'est une ligue qui... C'est quand même difficile à expliquer pourquoi la Ligue canadienne souffre tellement, mais regarde les trois plus gros marchés, Toronto, Montréal et Vancouver. Ce sont les trois franchises les plus en difficulté financièrement.
Ben oui.
Année après année.
Ben oui. Parce qu'à Toronto, ils ont les Blue Jays aussi. Puis évidemment, c'est un très, très gros marché. À Vancouver aussi.
Ben le défi à Toronto, Paul, tu l'as dit, là, t'as bien fait de le souligner, c'est qu'à Toronto, t'as d'autres alternatives.
Bien sûr, voyons donc.
Les Blue Jays, les Raptors.
T'as les champions du monde de basket.
Et voilà. Alors, c'est pas facile. Et aussi, le spectre permanent de la NFL à côté de la Ligue canadienne. C'est la seule ligue qui vit avec une ligue meilleure qu'elle dans le même marché presque.
Et tu as vu que la NFL a annoncé tout de suite son calendrier et ses confrontations d'ouverture.
Oui, ça s'est bien déroulé, Paul, mais il y a une chose que je veux souligner avec ça, c'est que
c'est pas garanti,
en soirée, la vente de billets n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les gens n'ont pas réagi.
Non.
Il n'y a pas eu cette folie habituelle
avec
que
raison.
Les gens achètent les billets.
Non, le calendrier est annoncé, ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser.
Et voilà.
Septembre. Parlons maintenant de l'Ontario qui autorise l'ouverture des centres d'entraînement des équipes professionnelles.
Bien ça va dans la même lignée que la NBA qui a ouvert ses centres d'entraînement hier pour les marchés qui étaient en bonne position, là, mais au moins l'autorisation a eu lieu. L'Ontario a 8 équipes professionnelles majeures, incluant les 3 équipes de la Ligue canadienne, les Argos, les Tiger Cats et les Red Blacks. Alors, ils ont décidé d'y aller pas par pas, encore une fois, de façon progressive, un joueur, quatre joueurs à la fois, de façon très rigoureuse, avec des joueurs qui seraient testés. Il y a ces complications-là, Paul, je veux juste souligner le fait que ça coûte quelque chose d'avoir des tests. Alors, si tu y vas à coups de centaines et centaines et centaines par jour pendant des mois, ça va devenir coûteux tester les athlètes professionnels aussi dans un contexte où ces équipes-là vont continuer à perdre de l'argent. Mais en tout cas, les centres d'entraînement sont ouverts. Les Raptors, eux, débutent graduellement l'entrée de leurs joueurs là, lundi.
Ray, fais-nous la mise à jour, parce que ça change tellement, de la Ligue nationale de hockey. Quel format? Est-ce qu'on complète la saison ou non? Et est-ce qu'on passe direct aux séries?
Ben, c'est comme une montagne russe, Paul. De semaine en semaine, toi et moi, on en parle. Puis on a toujours de nouvelles opportunités à discuter la semaine suivante. Là, cette semaine, l'idée, c'est un tournoi éliminatoire de 24 équipes. Alors, on semble prêt à sacrifier ce qui restait de la saison régulière pour passer tout de suite à un tournoi qui, avec 24 équipes, inclurait les Canadiens de Montréal. Donc là, tu aurais des équipes, les 8 premiers, qui auraient comme un passe-droit pour la première ronde. Et ensuite, les 16 restantes, ben, eux se battraient dans une série 2-3 pour passer à la ronde suivante.
Comme on voyait dans les années 80, là, les petites séries 2-3
et voilà,
contre
et voilà.
Alors, Alford.
C'est une bonne chose. Et surtout, ben, Paul, on sait qu'ils veulent générer de l'argent, là, puis, mettons, réduire les pertes estimées. Mais ils veulent aussi essayer de condenser ça. Premièrement, ils ne veulent pas emmener des équipes qui n'ont aucune chance de faire les séries et leur faire perdre 3-4 semaines, parce que ça va prendre un camp d'entraînement de 3-4 semaines pour jouer une série de 2-3, Paul. Fait que il y a des équipes qui ont pas de raison d'être là. Je pense aux sénateurs d'Ottawa.
Oui, t'as raison. Et tout ça à huis clos, là.
À huis clos, toujours. Oui, oui. Avec des centaines de tests à tous les jours. Ouais. Mais on veut aussi essayer de mobiliser, Paul, le plus grand nombre de marchés possible pour garder l'intérêt des gens. Donc, les deux derniers clubs qualifiés, ce sont les Blackhawks et les Canadiens.
Ah oui,
les Chicago et Montréal.
Ben oui, c'est parfait, ça.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des grands marchés de hockey avec des millions d'habitants et une grande base de partisans. Donc, on veut les engager eux aussi pour qu'ils soient accrochés au produit, ne serait-ce que pour la durée d'une série.
Ça on se reparle demain, Ray Lalonde. Merci, très intéressant.
Avec plaisir, Paul.